Bonjour à tous. Pour ceux éventuellement qui ne me connaîtraient pas, je suis Guénaël, le mari d'Harmonie qui est présent ce matin. Je suis aussi le fils de Dominique, Dominique et Christine Sanchez qui font partie de cette assemblée que peut-être vous connaissez. Donc on est quand même tous dans la même famille. Avant de commencer, j'aimerais en fait vous dire un petit peu de quoi on va parler ce matin et j'aimerais vous proposer de découvrir ou de redécouvrir la première épître de Pierre, cette première lettre qu'il a écrite. Alors, petit rapide rappel, qui est Pierre ? Pierre de son premier prénom Simon, oh là là. Simon, pêcheur de profession, Simon à qui Jésus donnera le surnom de Képhas, qui veut dire pierre, hein, ou roc en araméen, surnom qui lui vaudra cette formule célèbre de la part de Jésus, qui s'affiche en bas, « Tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Cette idée de clé qui donne d'ailleurs encore aujourd'hui cette fameuse image de Saint-Pierre dans le rôle de gardien du paradis, qui est avec son grand livre à l'entrée pour savoir si la personne qui arrive peut rentrer ou non. C'est également ce même Pierre qui, un petit peu plus tôt dans sa vie et dans le récit qu'on peut lire, qui va renier par trois fois Jésus-Christ, prétendant ne même pas le connaître, avant que le coq ne chante. Vous connaissez probablement ce récit qui se situe un peu après l'arrestation de Jésus. Simon-Pierre, donc, que Jésus avait mis en garde encore un petit peu auparavant, il lui dit « Tu vas passer par des temps difficiles, tu vas passer par des temps d'épreuve. » Mais Jésus, à ce moment-là, lui fait deux promesses. Premièrement, Jésus lui dit « J'ai prié pour toi, Pierre, pour que la foi ne te manque pas. » Et deuxièmement, deuxième promesse que Jésus lui fait, « Quand tu seras revenu à moi, tu auras une mission, celle de fortifier et d'encourager les chrétiens, la mission de faire paître le troupeau. » C'est d'ailleurs ce que Pierre va faire de sa vie par la suite, prêcher, partager cette bonne nouvelle dont il nous parle au début de son épître. Il va parcourir un certain nombre de régions dans le pourtour méditerranéen, régions qui forment plus ou moins, on va dire, l'actuelle Turquie. Et c'est d'ailleurs aux habitants de ces régions que Pierre adresse cette lettre, qu'il écrira d'ailleurs quelques années après leur avoir rendu visite. Plus précisément, même, c'est aux chrétiens qui font partie de ces églises qu'il écrit. Et si on voulait faire un petit jeu de mots, on pourrait dire que Pierre prêche à des convertis. Mais bon. Mais qu'est-ce qu'il leur dit dans cette épître ? Au cours de cette lecture-là, qu'on va survoler, qu'on va accélérer un petit peu ici, on constate que Pierre s'adresse à des chrétiens qui ont connu, qui connaissent ou qui vont connaître des situations de souffrance, qui vont connaître la persécution. Et il leur adresse un certain nombre d'encouragements, un certain nombre d'exhortations, oserais-je dire, de commandements même. Donc, notre sujet, donc, ce matin, on va se focaliser sur le début de cette épître, où Pierre nous donne en quelque sorte un mode opératoire de la vie chrétienne. Je vous propose de lire avec moi, dans la version Summer, on va commencer au chapitre 1, on va au verset 13 et jusqu'à la fin du chapitre. Je vais le lire avec vous. « C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saint, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix ? Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Un texte assez long, déjà, mais peut-être vous avez remarqué les deux premiers mots de cet extrait que je viens de lire. C'est pourquoi. Ce c'est pourquoi, là, cette liaison, il nous invite très 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 fortement à aller voir ce qui se passe juste un petit peu avant, ce que Pierre a développé juste un peu avant. C'est pourquoi, mais pourquoi quoi ? On devrait se poser comme question. On l'a dit tout à l'heure, Pierre s'adresse à des chrétiens, et au début de sa lettre, il leur adresse un petit résumé théologique de ce que cela veut dire d'être chrétien. Et je vais prendre ici quelques extraits qu'on a pu entendre tout à l'heure. Verset 2, « Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ. » Un peu plus loin, verset 3, « Il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Verset 4, « Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. » Et verset 5, « Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Ben mine de rien, en 5 versets, il y a déjà énormément, énormément à dire. Un véritable condensé théologique, plein de thématiques qui sont abordées. Et le verset 6, « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Tout ce que Pierre vient de résumer en quelques lignes, « Voilà ce qui fait votre joie, mais cet héritage qui arrive, et bien justement, il arrive. Et en attendant, ce n'est pas forcément la vie en rose et ce n'est pas forcément la vie est un long fleuve tranquille. Verset 7. Celles-ci, ces épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Le but de Pierre ici, c'est que les chrétiens à qui il écrit, et nous aussi par la même occasion, que les chrétiens puissent avoir une juste compréhension, une saine compréhension de ce qu'est leur identité en Christ, de ce qu'est leur identité de chrétien. Parce que cette compréhension modèle notre façon de vivre. Cette compréhension, elle modèle notre façon de réagir. Une juste compréhension, par exemple, ce n'est pas penser qu'être chrétien, c'est l'assurance de la réussite ici-bas, du succès. Ce n'est pas l'assurance de la réussite financière, ce n'est pas l'assurance d'une famille indestructible, ce n'est pas l'assurance de tout ça. Et malheureusement, toutes ces idées ont beaucoup de succès et dans beaucoup d'églises entraînent des milliers et des milliers de personnes dans cette fausse compréhension. Et voilà l'idée de Pierre. Nous, vous, chrétiens, comprenez bien qui vous êtes, quelle grâce vous a été accordée par Dieu. Quel est votre statut, quel est votre héritage, quelle est votre joie, quel est votre passeport. Et c'est pourquoi je vais vous donner quelques recommandations. Alors on peut se dire, oulala, la liste des choses à faire qui arrive, qu'est-ce que je vais devoir encore faire pour être assez bien, pour avoir le niveau. Mais ne nous trompons pas de combat. Il ne s'agit pas de faire pour mériter quoi que ce soit, mais plutôt de considérer d'abord la grâce imméritée qui nous est faite. Considérer notre nouvelle identité, considérer les droits et les devoirs qu'implique notre statut d'enfant de Dieu. Si vous ne vous considérez pas chrétien ce matin, ne partez pas. Au contraire, restez avec nous. On va découvrir ou redécouvrir ensemble ce que Dieu a en réserve pour ses enfants. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés ? Dans quel but ? Quelle est cette grâce dont on parle ? Et quelle joie, quel privilège c'est de le connaître ? Premier verbe qui revient dans la parole de Pierre. Être chrétien, premièrement, c'est donc espérer. Espérer dans tout ce que Pierre vient d'expliciter. Non pas comme un j'espère hypothétique, comme moi j'espère qu'il va faire beau la semaine prochaine parce que je suis en vacances. Non, ce n'est pas du tout dans ce registre-là. Mais une promesse certaine, une espérance même à laquelle on peut travailler. Verset 13, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. littéralement, on se rapproche de quelque chose comme « Allez, c'est le moment de se remonter les manches. » Je n'ai pas de manches, mais vous voyez l'idée. Hein. Mot à mot, c'est même « Mettez une ceinture autour de vos reins, autour de vos habits, pour être prêt à l'action. Restez en alerte. » Et mettez, la suite du verset 13, « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » Pierre, en fait, fait une allusion ici à un enseignement que Jésus leur avait donné, qu'on peut retrouver dans Luc 12, verset 35, où Jésus dit « Restez en tenue de travail, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, et heureux ces serviteurs, etc. etc. » C'est un enseignement, d'ailleurs, à propos duquel Pierre va demander à Jésus « Cet enseignement, est-ce qu'il est juste pour nous, disciples, ou est-ce que c'est pour tout le monde ?» Et vous voyez, dans cette épître de Pierre, il relaye cette invitation du Christ à se tenir prêt, pas dans une attente passive, mais dans le service actif. Deuxièmement, être saint. Sacré programme. Hein. Se pourrait-il que la Bible se trompe ? Se pourrait-il que la Bible nous demande quelque chose qui est impossible ? Comment pourrions-nous être saints ? Est-ce que c'est par le fruit de nos propres efforts que l'on pourrait obtenir la sainteté ? Je crois qu'il serait assez illusoire de vouloir ici faire une démonstration, Bible en main, que oui, c'est à force d'efforts, c'est à force de contrition, de privation, qu'on peut arriver à la sainteté. Je crois même que la Bible nous présente un modèle tout inverse, où depuis le début, l'homme se plante. Depuis Adam, en passant par tous les personnages bibliques, hormis Jésus-Christ, bien sûr, tous les personnages bibliques, aucun n'est arrivé à la sainteté par ses propres efforts. Mais alors pourquoi cet impératif de Pierre ? Soyez saints, car je suis saint. Déjà, on peut remarquer que Pierre, juif qu'il était, connaissait les Écritures, et il cite ici en réalité le livre de Lévitique. Ce livre qui nous rappelle à deux reprises que ce commandement, il n'est pas nouveau. Ce commandement, Dieu, depuis le départ, le rappelle à son peuple. Dieu est saint, et parce qu'il est saint, il appelle son peuple à être saint. Et si hier, les Juifs devaient pratiquer un ensemble de rituels, de sacrifices compliqués, tout ça destiné à retrouver, on va dire, virtuellement un état de sainteté, ces sacrifices ne faisaient en fait qu'annoncer le sacrifice à venir, celui de Jésus-Christ, sacrifice dont nous sommes au bénéfice, par pure grâce, et qui nous rend saints aux yeux de Dieu. Mais entre les Juifs d'alors, que Dieu a appelé à la sainteté, et nous, que Pierre appelle également à la sainteté, il y a une constante, il y a quelque chose qui reste. Celle à laquelle on fait peut-être un peu moins attention. On se dit « comment est-ce que je vais être saint ? Comment est-ce que je vais me débrouiller ?» Et on se focalise peut-être un peu moins sur le fait que nous devons être saints parce que Dieu est saint. Et que cette sainteté, elle n'est pas à prendre à la légère. Dieu est saint, il nous appelle à une pleine communion avec lui, et donc à une pleine communion dans sa sainteté. Comme des enfants obéissants, au verset 14, le mot qui fâche. Hein, que vous soyez parents ou non, vous avez probablement déjà vu des enfants obéissants. Vous avez probablement vu des enfants moins obéissants aussi. D'ailleurs, un même enfant peut passer assez rapidement d'une case à une autre. Mais comme des enfants obéissants, laissez vos anciennes passions qui vous gouvernaient auparavant. Dans cet appel à la sainteté, Pierre semble nous dire que nos passions, ce qui nous anime, ce qui nous gouverne, ce n'est pas nécessairement toujours bon. Nous avons besoin de nous laisser transformer, de nous laisser modeler toujours, toujours plus par le Saint-Esprit, toujours plus par la parole. Car nos passions doivent être au minimum éprouvées, corrigées, voire pour certaines peut-être abandonnées. Soyez saints, car je suis saint. Et un petit point gréco-hébreu de la matinée, on va dire le point Becherel pour ce matin. Il y a des experts, voilà, linguistes, qui suggèrent que dans cet impératif présent au français « soyez saint », il y a également une notion de projet qui est en cours, une notion de projet qui amène à quelque chose. En quelque sorte, si on s'autorisait à paraphraser, on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait à « vous serez saint car je suis saint » ou « vous finirez par être saint car je suis saint ». Une sainteté qui est pour maintenant et une sainteté qui est à venir. Quelque chose qui est difficilement intelligible pour nous. Mais du coup, un commandement, soyez saints, qui s'accompagne aussi d'une promesse, vous serez saints. Alors, pas la peine de broyer du noir, de se dire qu'on n'y arrivera jamais de toute façon, mais quand Dieu promet, Dieu fait en sorte que sa promesse se réalise. Dieu fait en sorte de nous rendre saints. Inutile non plus d'aller dans l'extrême inverse, se dire qu'on n'a pas besoin de changer, que les efforts sont inutiles. Je pense que la Bible est suffisamment claire aussi sur cette idée. Mais avant tout, Dieu nous appelle à ne pas prendre à la légère sa sainteté parfaite, trois fois saint, et à ne pas perdre de vue qu'il nous veut tout entier, unis à lui, et donc parfaitement saint comme lui est saint. Une transition assez facile, du coup, avec le point suivant. On l'a dit, la Bible nous présente un Dieu trois fois saint, et voilà que Pierre, après nous avoir dit « soyez saints », Pierre nous invite à craindre Dieu, au verset 17, que cette crainte inspire votre conduite. Et en même temps, au début du verset, on peut lire « dans vos prières, vous appelez Dieu Père ». Hein, Père, comme dans l'exemple du Notre Père que Jésus nous a laissé, comme une relation filiale, une relation familiale avec ce Dieu trois fois saint. Père qui juge tout de même. Verset 17, un Père qui juge impartialement tout homme juif ou non-juif. On peut se rappeler pour l'histoire de Pierre, qui pensait que le salut était réservé premièrement aux juifs, et puis il va découvrir que non, ça va au-delà. Dieu juge impartialement tout homme. Revenons alors à craindre Dieu. Est-ce que je dois en avoir peur ? Comment comprendre cette phrase ? Comment me comporter vis-à-vis d'un verset qui peut-être me dérange, qui peut-être vous dérange ? Est-ce que la crainte de Dieu est compatible avec cette espérance que Pierre développe depuis le début ? Voilà ce qui fait votre joie. Et pourtant, il semble que Pierre fasse exprès, là, dans ce passage, de mettre dans la même phrase Dieu Père, Dieu juge impartial, et que par conséquent, nous devrions vivre dans une crainte de Dieu qui inspire notre conduite. Ce qui serait, je pense, une mauvaise compréhension de cette crainte de Dieu. Ce serait une crainte, une peur qui nous éloigne de Dieu. Une crainte qui nous donne envie de le fuir, loin de lui. Une crainte qui rendrait moins extraordinaire cette espérance, cette nouvelle naissance, cette joie, cet héritage que Pierre développe en long et en large depuis tout à l'heure. Pour autant, est-ce qu'on peut résumer la crainte de Dieu à simplement du respect ? Je vois peut-être des fois dans des commentaires, on peut trouver simplement dire « oui, la crainte de Dieu, c'est le respect ». Mais quand on lit les récits de Moïse, d'Ésaïe ou de Jean dans l'Apocalypse, par exemple, ces trois personnages qui ont goûté de très près la présence de Dieu, est-ce qu'ils ont eu simplement du respect ? Il me semble qu'ils ont eu un peu plus que ça. Ils ont ressenti une vraie crainte légitime devant celui qui est tout de même le Dieu créateur de tout l'univers. Francis Chan, un pasteur américain qui donnait une anecdote à ce propos, disait « mais si vous pouviez passer ne serait-ce que 5 secondes dans la présence de Dieu, dans quel état seriez-vous » Au-delà du fait que la parole nous dit qu'on ne pourrait pas subsister vivant dans la présence de Dieu, mais imaginons, dans quel état seriez-vous ? Est-ce que cela ne révolutionnerait pas toute notre vie ? Cette crainte de Dieu, au final, elle devrait nous pousser à le désirer plus que tout. Elle devrait nous inspirer, devrait nous modeler, nous pousser à aimer Dieu davantage en retour. Verset 18, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre, cette manière de vivre qui consistait à ne pas connaître Dieu, cette manière de vivre indépendamment de lui, loin de lui. Vous avez, nous avons été libérés de cela. Et vous savez à quel prix. Nous avons partagé la Sainte Cène tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier que cela a coûté à Dieu. Cette grâce qui nous est offerte, par définition, c'est une grâce. Elle est gratuite pour nous. Ça ne veut pas dire qu'elle a été gratuite pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien coûté. Verset 20, « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi. Dieu avait choisi Jésus-Christ. » Jésus n'est pas comme un plan B qui arrive après que le plan A initial soit parti en cacahuète alors que Dieu ne l'avait pas prévu. Non. Dieu sait très bien ce qu'il fait depuis le départ. Et la fin du verset 21, « Ainsi votre espérance et votre foi sont tournées vers Dieu. » Quatrième point sur lequel Pierre attire notre attention dans ce texte. Verset 22, nous avons un mot magique. Ce mot magique, c'est « afin ». Verset 22, je le lis. « Par votre obéissance à la vérité, vous avez été purifié, vous avez purifié votre être, pardon. Vous avez purifié votre être afin, dans le but de, afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. » Pierre nous encourage ici à une démarche qui me concerne, qui commence par ma manière de vivre, qui commence par mon obéissance, qui commence par le fait de purifier mon être, afin d'aimer sincèrement ceux qui partagent comme moi cette condition d'enfant de Dieu, ceux qui partagent comme moi cette espérance, cette joie, cette qu'on a vue tout à l'heure. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, verset 22. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Probablement. Jésus qui nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, verset 23. Non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. Et quelle est cette semence immortelle? La parole vivante et éternelle de Dieu, parole de Dieu qui n'est autre que Jésus-Christ. Parole qui subsiste éternellement, nous dit Pierre, à la fin de la citation du livre d'Ésaïe qu'il fait au verset 25. C'est un peu, finalement, le leitmotiv depuis tout à l'heure de Pierre. Cette parole éternelle qui donne la vie, cette parole qui nous fait naître de nouveau, cette parole qui régénère, cette parole qui nous modèle dans toute notre vie, qui nous fortifie, qui nourrit notre espérance, afin de pouvoir aimer nos frères et sœurs. Pierre nous liste donc quatre bases, quatre exhortations pour la vie du chrétien. On pourrait prendre facilement chacune d'entre elles et y passer des heures et des heures et des heures. Travailler activement à espérer, être saint comme Dieu est saint, craindre Dieu d'une saine manière, et enfin, aimez vos frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Au travers de ces quatre basiques, on va dire, la parole de Dieu revient en boucle, la parole, la parole, la parole. Et Pierre nous suggère de nous comporter comme des nouveau-nés avec la parole. Et je suis obligé de déborder un petit peu sur le chapitre 2. C'est le risque avec nos chapitres dans nos Bibles. On arrive à la fin d'un chapitre, on dit ça y est, c'est fini, l'histoire est finie, on en commence une nouvelle. Manque de peau, c'est la suite de ce qu'il y avait juste avant. Et verset 2 du chapitre 2, « Désirez ardemment le lait pur de la parole. » Je ne sais pas si vous avez déjà vu un nouveau-né qui cherche le lait, qui pense à manger. Vous sentez bien qu'à ce moment-là, dans sa tête, il n'y a pas grand chose d'autre qui se passe que c'est où qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, j'ai faim, il n'y a rien d'autre. La couleur des murs, pas grave. Est-ce que la photo que ma mère a postée sur Instagram a été bien likée? C'est pas grave, j'ai faim. L'objectif, c'est manger. Et à nouveau, dans ce verset, ce fil rouge, la parole, désirer ardemment le lait pur de la parole. Une idée qui revient sans cesse, c'est bien qu'elle doit avoir son importance. Et pas que chez Pierre, Paul ou Jacques, pour le jeu de mots. On peut se retrouver cette idée, un peu ce fil rouge chez ces autres auteurs bibliques. Jacques 1, 18, « Dieu nous a engendrés par sa parole. » Ou Paul, dans son épître aux Philippiens, qui nous dit que la parole est une parole de vie. « Désirez le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir. » Au début, des petits biberons, toutes les 3 heures, et puis 3 repas par jour, puis des biberons toujours plus grands, toujours plus enrichis. Voilà comment nous devrions avoir soif de la parole. Voilà comment nous devrions nous comporter avec la parole comme des nouveau-nés. Et malheureusement, je suis le premier à faire le constat qu'à certains moments, je suis à sec. Un seul biberon par jour, peut-être par semaine, voire moins. Revenons à cette condition de nouveau-né. Assoiffé, affamé de la parole de Dieu, afin qu'il nous fasse grandir en vue du salut. C'est ce que nous dit ce texte. Nous sommes tous en croissance, nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu, tous en chemin, tous appelés à rechercher ce lait pur de la parole de Dieu. La parole, c'est le moyen par excellence, c'est l'outil, la méthode pour pouvoir vivre ces 4 commandements que Pierre nous donne. Travailler à notre espérance, mais comment? Eh bien, plonger dans la parole de Dieu pour mieux la connaître, pour mieux se l'approprier. Travailler à notre sainteté, à l'exemple du Dieu 3 fois saint décrit dans les Écritures. Vivre une saine crainte dans une saine connaissance de qui est Dieu, que nos vies soient modelées par cette parole qui transforme, qui régénère. Aimer nos frères et sœurs. Et tout cela dans quel but? Dans quelle perspective? Former un temple. Ces 4 commandements, c'est vrai, mais ces 4 commandements qui nous amènent à un privilège. On a le verset 5 qui est là, le privilège de former un temple spirituel. Ce n'est pas un temple fait de cailloux, ce n'est pas un temple fait de pierres, comme cela pouvait exister, mais un temple fait de pierres vivantes, de frères et de sœurs que nous sommes. On peut se remémorer les paroles de Jésus quand il lançait aux religieux, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Évidemment, ces religieux, ils n'avaient pas compris l'enjeu spirituel de cette parole. Ils ne parlaient pas de reconstruire pierre à pierre, non. Ils parlaient des 3 jours qui séparaient sa crucifixion de sa résurrection et ce temple nouveau qui allait arriver. Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre vivante, verset 4, que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Ce temple, frères et sœurs, Jésus-Christ a choisi de le construire avec nous. Non pas qu'il ait besoin de nous, mais par amour, par grâce, il nous fait participer à cette entreprise qu'est l'Église. Pour terminer, pour ceux qui ne croient pas, si vous n'avez pas encore pris position aujourd'hui, si vous êtes encore en froid avec Dieu, si vous n'êtes pas réconcilié, si vous êtes loin de lui, si vous n'êtes pas encore avec celui qu'on peut appeler Père, si vous ne faites pas encore partie de la famille, si vous ne dites pas encore frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui encore, il n'est pas trop tard pour reconnaître notre état de pécheur, notre état qui nous brouille avec Dieu. Il n'est pas trop tard pour reconnaître ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans. Mort à notre place, par grâce. Car si on peut résumer en une phrase, quel est notre but en tant que communauté, en tant que famille? Former l'Église avec un grand E, basée sur Jésus-Christ, basée sur sa parole, pour adorer Dieu. Et je terminerai avec ces 2 derniers versets que j'affiche, qui terminent cette section du texte, au verset 9. « Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Verset 10. « Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Je vous invite à prier. Seigneur, comment te dire merci? Comment te dire merci que tu as voulu l'Église ainsi? Merci de nous inclure dans ton plan. Merci de nous faire rentrer dans cette famille spirituelle. Merci pour cet héritage infaillible qui nous attend, que tu nous as promis et dans lequel nous espérons pleinement. Seigneur, que ta parole continue à nous transformer, à se révéler. C'est vrai, nous tombons encore, jour après jour. Nous ratons souvent le but, mais merci parce que tu es fidèle et juste pour continuer à nous pardonner, par grâce, jour après jour. Seigneur, transforme-nous, modèle-nous par ton esprit et par ta parole. Amen.